And now for our feature presentation.
Il était une fois des filles superbes, aux horizons et parcours divers, qui avaient décidé de se lancer dans la création d'un média digital, Urban Mood. Mais très vite, elles ont ressenti le besoin d'élargir leur champ d'action. C'est ainsi qu'est né Urban Mood Talk, l'émission de radio sans tabou et sans langue de bois. Urban Mood Talk, c'est de l'actualité, de la culture et des faits de société. Chaque deuxième dimanche du mois, de 13h à 14h, elles sont en rendez-vous. Et vous n'allez pas le regretter, car ce sont vraiment de drôles de dames. Urban Mood Talk, la culture urbaine autrement, sur Prune 92.fm.
Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur votre émission Urban Mood, notre émission d'actualité et sur la culture urbaine. Je suis Tessa, votre présentatrice, votre animatrice, et je suis accompagnée d'une équipe plutôt féminine.
Plutôt quand même.
Plutôt. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Nous avons Adeline. Alors Adeline, qu'est-ce que ça te fait de passer le flambeau ?
Bonjour à toutes et à tous.
Bah écoutez, moi je suis super contente. Je suis débarrassée de l'animation.
Mais temporairement. En même
temps,
hein.
Oui, mais ça va tourner. Donc le temps que ça revienne à moi, ça, j'ai un peu le temps. Et puis en même temps, je suis très très contente, Tessa, parce que je sais que tu es une animatrice de choc.
Voilà. Merci. Alors, sans plus tarder, Souki.
Oui, bah, bonjour. Écoute, coucou Tessa, coucou tout le monde. Voilà, je suis ravie d'être là aujourd'hui.
À la technique, Ryan. Bonjour Ryan.
Oui, salut tout le monde.
Et
bien ça y est, je suis de retour à la réal. C'est un peu... je réapprends un peu, mais ça va.
D'accord, on va s'en sortir. Et la dernière et pas des moindres, Lorraine, que vous avez écoutée dans l'émission précédente. Bonjour Lorraine.
Bonjour Tessa, je cours partout aujourd'hui, je suis essoufflée. Il faut que je me remette au sport, j'en peux plus.
Ça m'étonne pas. Alors aujourd'hui, comme les deux dernières émissions, on va vous présenter une petite émission particulière. Alors vous savez, au mois de novembre, nous avons fait une émission 100% musicale où nous avons présenté les auteurs nantais. Et le mois dernier, c'était plutôt une rediffusion. Parce que pour des raisons qu'on n'explique plus, hein, crise sanitaire. Et aujourd'hui, on revient avec une petite particularité, ce qu'on va parler un petit peu de nous. On va se présenter un petit peu à vous, histoire que vous appreniez à nous connaître. Alors ça, ce sera sur une première partie d'émission. Et sur la deuxième partie, on va parler un petit peu de la société de consommation. Donc c'est une notion qu'on entend souvent, surtout à la période qui vient de se terminer, à la période de Noël. Et on va parler de l'impact que la crise sanitaire a eu sur cette société et les nouvelles façons de consommer des Français. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lancer.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour s'assurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, si, si, si.
Vous écoutez bien Urban Mood Talk sur Prune 92 FM.
Vous êtes toujours sur Urban Mood Talk et donc comme je disais, on va se présenter un petit peu chacune à son tour. On va commencer par Souki.
D'accord. Bon, ça tombe bien parce que moi, j'ai fait ma petite partie, donc je l'ai préparée. Voilà. Alors en fait, moi, à la base, je m'appelle Fanny, mais tout le monde me surnomme Souki, car c'est un petit surnom dérivé de mon prénom coréen Sukjin. Je suis née en Corée du Sud, à Séoul, et j'ai été adoptée donc, à l'âge de 4 mois. Donc c'est à ce moment-là que je suis arrivée en France. J'ai 33 ans, j'ai habité jusqu'à mes 20 ans dans une ville au sud de Nantes, où j'ai fait une licence en communication des entreprises à Subdecom. Puis ensuite, je suis montée sur Paris pour faire un Master 2 en communication option digitale. Et en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu la chance de décrocher un CDI dans un syndicat d'assureurs, où du coup, j'ai été responsable communication pendant 8 ans. À ce moment-là, j'ai pu donc organiser des événements pour des directeurs de sociétés d'assurance. Et je m'occupais également donc, de tout ce qui était communication digitale et visuelle. Et en fait, il y a 2 ans de ça, pour des raisons à la base personnelles, j'ai quitté mon ancien job à Paris pour me mettre à mon compte et ainsi revenir donc vivre du côté de Nantes. Donc en fait, à présent, je suis consultante en communication, graphiste et web designer en freelance. À côté de cette activité, je fais partie de la team Urbamood, donc avec mes 2 acolytes ici présentes, Adeline et Riane. Je m'occupe en grande partie de la mise en page du magazine et je gère également les rubriques liées au sport, bien-être, à la cuisine et à la musique. Sinon, pour terminer, je suis une personne hyper optimiste, très curieuse et j'adore rigoler. J'aime bien la course à pied. Je sais qu'il y en a qui vont rire parce que je les saoule tous les jours à aller courir. J'aime bien cuisiner par la même occasion, donc manger. J'aime voyager, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au développement personnel. Et je suis aussi une grande admiratrice de la culture afro-caribéenne. Pourquoi ça, je vous l'expliquerai peut-être un autre jour, là, parce que je n'ai pas trop le temps. Je pense que je vais dépasser mon temps de parole. Et pour finir, oui, je suis également une grande adepte des réseaux sociaux. Je suis obligée d'y être due à mon activité professionnelle, mais bon, j'adore faire des stories sur tout plein de trucs débiles ou un petit peu marrants. Du coup, ça me permet d'évacuer un peu et de décompresser. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram qui est Souki, SOUKIE-YAKIE. Voilà, comme ça, on va pouvoir se marrer ensemble.
Et
voilà.
Vous trouverez son CV sur le site de Prune, carrément.
Non, pour l'instant, j'ai assez de boulot, donc ça va aller.
Merci, Souki. Alors, nous allons passer à Lorraine.
Oui, alors que dire ? Bon, j'ai essayé de réfléchir à quoi dire. Donc, je suis Lorraine, et si vous écoutez Prune depuis ce matin, vous savez que je suis aussi aux manettes de l'émission Nantaises et Nantais d'ailleurs, où on va à la rencontre de Nantaises et Nantais d'adoption avec mon binôme Patrick. Bon, il faut dire qu'ils viennent surtout à nous, parce qu'ils viennent en studio. Hein. Sinon, je suis étudiante chercheuse, mais aussi enseignante. C'est un statut un petit peu hybride, je fais un peu de tout, mais ce qui me passionne en ce moment, c'est vraiment l'éveil à l'anglais auprès des plus jeunes, mais aussi des adultes. Et dans ce cadre, je suis auteure de livres pour enfants dans une collection que j'ai créée qui s'appelle Once Upon Nantes, où on a l'éveil à la lecture en anglais par le biais d'histoires personnalisées pour les enfants. Par exemple, un parent peut commander une série de 3 livres qui sont vraiment faits sur mesure pour cet enfant-là, avec ses histoires et ce vécu-là en anglais. C'est un peu ma passion du moment. Sinon, je fais ma thèse tranquillement. Et les Nantais, d'ailleurs, qui m'occupent déjà pas mal. Et Urbamood Talk, ouais, forcément, mais ça va de soi.
Ça va de soi, en effet. Alors, Adeline ?
Ok, bon, moi, je suis la mauvaise élève parce que j'ai rien préparé, les filles. Bon, parce que comme en temps normal, je parle déjà beaucoup. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me laisser porter. Alors, moi, je m'appelle Adeline, mais j'ai un nom de scène, comme j'aime à le dire, qui est Tipora Isaac. Donc, sur les réseaux, vous me connaissez sous le pseudo de Tipora Isaac. Je ne donnerai pas mon âge, parce qu'il paraît que je fais plus jeune. Donc, je ne donne pas mon âge. Je vous laisse deviner. Que vous dire dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Eh ben, en fait, j'ai un job alimentaire, un peu comme tout le monde. Je suis directrice de magasin, donc dans le prêt-à-porter. Voilà. À côté de ça, j'essaye de faire plein de choses parce que je m'intéresse... comment dire ? Est-ce que je peux dire que j'aime les gens ? J'aime échanger beaucoup avec les gens. Donc, du coup, j'ai essayé de mettre certaines choses en place pour pouvoir échanger avec vous toutes et vous tous. J'ai créé, il y a un peu plus d'un an, le magazine Urbamood Nantes, qui, à la base, était un site que vous pouvez retrouver sur Google. Et ensuite, Souki et Riane se sont rejoints à moi pour qu'on puisse créer le magazine Urbamood Mag, qui existe depuis un peu plus d'un an. Je crois qu'on a dû sortir, là maintenant, on a 4 ou 5 numéros. C'est un trimestriel. Et voilà, donc on a créé ce magazine toutes les 3. À côté de ça, j'essaye un peu de faire parler, de vous faire parler, vous, mesdames, lors d'un after work qui se passe chaque dernier dimanche du chaque dernier vendredi du mois. Ça s'appelle Femmes libérez votre parole, et lors de cet after work, en fait, j'essaie de libérer en tout cas la parole des femmes. Je suis accompagnée d'Élodie qui est coach. À côté de ça, bah écoutez, j'aime la photographie, j'aime la mode, voilà, j'aime ma fille, mes parents, ma famille.
C'est mieux quand même quand on aime ses enfants.
Voilà, c'est pour ça. Ah, je sais même pas si je l'ai dit en premier, mon Dieu, j'espère qu'elle n'entend pas. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'ai fait des études dans la mode aussi. Voilà, donc tout ce que je pouvais dire. J'arrête là.
Ouais. Bah, merci Adeline, c'est déjà pas mal. Alors Ryan.
Oui, alors moi je vais me présenter brièvement. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis nantaise. Et à la base, moi j'ai un profil plutôt marketing digital. Mais depuis environ un an, je ne travaille pas dans mon domaine. Je travaille dans l'édition, mais c'est un peu particulier parce que c'est l'édition des livres de code de la route. Donc voilà, quand vous passez vos codes, et ben, c'est ma société qui le fait. Après, au quotidien, comme Suki et Adeline l'ont dit tout à l'heure, je travaille pour Urban Mood depuis un peu plus d'un an. Voilà, je suis plutôt sur la partie réseaux sociaux, l'animation du site internet. Et puis, lorsqu'on pouvait encore sortir un peu, faire des événements, quelquefois, vous m'avez croisée. Et parfois, sur les réseaux sociaux, c'est moi qui vais commenter vos posts, répondre à vos questions. Ensuite, au quotidien, ben, moi, je suis une lectrice. Donc, je lis beaucoup et je lis en particulier les thrillers, les romances aussi. C'est plutôt de la fiction que je vais lire, hein, plus que des essais, des biographies, ce genre de choses. Et je fais un peu de guitare aussi. Bon, pour l'instant, ne me demandez pas de jouer pour vous parce que je ne suis pas assez confiante pour ça. Mais voilà. Donc, je te laisse Tessa te présenter.
Bah, merci. Alors, moi, je suis Tessa. Donc, comme tout le monde le sait maintenant, je suis... actuellement animatrice de centre de loisirs périscolaire avec l'association Accor et Léo Lagrange. Donc, je suis en parallèle demandeur d'emploi parce que j'aspire à autre chose, comme on dit. Je suis en recherche d'un emploi dans le métier du social. Alors, je suis à Nantes depuis 2010 et ça fait 11 ans maintenant, je crois. Ouais, depuis 2010. Et j'ai fait le lycée La Collinière, la faculté de Nantes, dont j'ai fait 2 ans de sociologie et 1 licence en sciences de l'éducation, et puis un master en métier de l'enseignement à La Roche-sur-Yon. Mais comme c'est un master qui va de pair avec un concours, bon, j'ai pas eu le concours, donc c'est pour ça que je suis pas professeure des écoles. Et à côté de ça, j'ai une vie associative très active actuellement. Donc je suis dans une association qui s'appelle le BCT. Et c'est une association qui réunit quelques jeunes nantais qui aspirent à l'entrepreneuriat, pardon. Et bon, on cherche des adhérents, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous chercher sur les réseaux. Je suis également avec Rosine, présidente de l'association Asprobir. Je suis secrétaire de cette association, donc c'est une association sur les bibliothèques rurales en Afrique. Au Cameroun, plus particulièrement, mais actuellement, nous essayons de travailler avec plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est une association qui s'intéresse à la lecture des jeunes exclus, un petit peu marginalisés. Donc, j'en parlerai peut-être un peu plus en fin d'émission. Alors, nous avons terminé avec cette partie présentation. Et pour digérer tout ça, je vous propose de faire une petite pause musicale. Adeline.
Oui, alors moi, je vais vous parler de Mariama Hévier. Ça va être notre fil rouge un petit peu dans cette émission. Ce sont des chanteurs sénégalais. Alors, ils vont nous interpréter une chanson qui s'appelle « Frou Keita ». J'espère que je le prononce bien. Je vous laisse écouter et je vous parlerai un peu plus d'eux après. Thank you.
molo tambita, ijama molo tambita, ijama la molo tambita, awari kana bulala. Ijama la molo tambita, ijama molo tambita, ijama la molo tambita, awari kana bulala. Jamala molo tambita, ay jamala molo tambita, jamala molo tambita, ha wari kana bulala, hey, yam fama nyine,
Rendons-leur leur liberté
avec Urban Mood Talk sur Prune 92 FM.
Alors, c'était Mariama Evier qui nous interprétait Fruketa. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous dire un petit peu, je vais vous parler un petit peu de Mariama Evier, qui est un couple de chanteurs sénégalais. Ils sont originaires de la Casamance. Ils se sont rencontrés, on peut dire qu'ils ont grandi au sein du peut-être du même cercle familial. Voilà, ils sont issus en fait d'une grande famille de griots casamançais. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit aussi. Il faut savoir que Mariama, j'adore sa voix, vraiment. Et Evier, il joue de la kora. Donc vous avez dû entendre dans le morceau qui est passé... l'instrument, et c'est un instrument qu'il fabrique lui-même. C'est vraiment très, très beau. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous inviter à aller sur nos réseaux, donc Urban Mood Mag et Urban Mood Nantes, pour voir en fait l'interview que nous avons fait d'eux dans le dernier magazine qui est sorti le 30 décembre 2020. N'oubliez pas que notre magazine sort tous les trimestres et que c'est un magazine qui est fait pour mettre en avant la culture afro-caribéenne à Nantes et dans le Grand Est, dans le Grand Ouest pardon, de la France en particulier. Tessa, je te laisse la parole.
Merci Adeline. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, on va parler de la société de consommation. On va essayer de voir un petit peu d'où vient cette notion. On va parler un petit peu des origines en quelque sorte. Rianne.
Oui, donc je vais vous présenter un peu la société de consommation, d'où ça vient. Déjà un petit rappel, hein, je ne suis pas historienne ni économiste, mais je vais essayer de vous faire part de mes quelques recherches. Déjà, savoir que ce terme « société de consommation » a été utilisé la première fois en 1950
Et pour ce qui est de la France, on a commencé, enfin la société a commencé à être très consommatrice après la Deuxième Guerre mondiale. Donc à partir de 1945, hein, si vous vous souvenez un peu de vos cours d'histoire, vous avez sûrement entendu parler des 30 Glorieuses. Donc en fait, avant ça, bah, les gens consommaient pour tout ce qui était achat de nécessité, donc les vêtements, à manger, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, donc après la Deuxième Guerre mondiale, bah, toute l'économie française était à refaire avec les pénuries alimentaires et le chômage qu'il y avait. D'ailleurs, il suffit de parler aux personnes d'un certain âge aujourd'hui, hein, pour voir comment cette époque-là les a vraiment marquées psychologiquement, qu'on voit même aussi dans leur comportement lorsqu'ils font leurs courses, par exemple. Et du coup, en fait, à partir de 1948, le président de Gaulle, avec le plan Marshall et notamment l'aide américaine, a commencé à avoir un peu une lueur d'espoir. Et donc, c'est là qu'a été le début des 30 Glorieuses. Donc, en France, on a pu voir l'innovation technologique et ce qui a permis d'augmenter la productivité. Et il y a eu aussi l'arrivée de la tertiarisation, si je prononce bien. Avec l'essor des services et notamment la mutation de la grande distribution. Je ne connais pas très bien toute la grande distribution en Europe, mais si je compare par exemple à l'Espagne ou encore le Portugal, on voit que chaque circuit de la grande distribution française sont vraiment énormes. Enfin, moi, ça me fascine, hein, de voir tous nos supermarchés, nos hypermarchés, comment c'est... J'ai même l'impression que c'est culturel, on va dire. Et tout ça, en fait, s'est inspiré du modèle américain, à savoir qu'aux États-Unis, eux, ils faisaient déjà leurs courses au supermarché depuis les années 20. Et en France, c'est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. À partir de ce moment-là, il y a eu, on appelle ça vraiment les 30 Glorieuses parce qu'à l'époque, pratiquement tout le monde avait un emploi. Le chômage était à moins de 3%. Le revenu par habitant avait triplé entre 1953 et 1967. Donc, il n'y avait plus vraiment d'écart de revenus entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Et puis, le pouvoir d'achat qui a aussi augmenté. Donc, c'est en plus en même temps, à peu près à cette époque-là, qu'on a commencé à mettre en place la sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui, l'assurance maladie ou les régimes de retraite. Et donc, toutes ces bonnes conditions-là, en fait, ont créé notre société de consommation. Et vous remarquez, il y a même un fait intéressant que je trouve, c'est qu'à ce moment-là, toutes les classes sociales étaient vraiment... concernés par ce comportement de consommation. Donc, un autre terme est sorti, ça a été la consommation de masse, parce que là, il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus les ouvriers ou les cadres supérieurs. C'était vraiment tout le monde qui consommait de la même façon. Et ce qui n'a pas non plus aidé, on va dire, c'est l'essor de la publicité en France dans les années 60. On a vu notamment l'arrivée de produits révolutionnaires pour les foyers avec l'électroménager. Donc, la publicité a commencé à cibler en particulier les femmes au foyer, mais les hommes aussi, parce que j'ai découvert un truc que je ne savais pas. Peut-être que vous, les filles, vous étiez au courant, mais apparemment, à l'époque, il y avait un magazine homologue de Elle qui s'appelait Lui. Et quand c'est sorti, en 1963, il a été lu par près de 5 millions d'hommes français. C'est énorme, hein ?
Ouais. Donc, excusez-moi, Rianne, je te coupe.
Oui.
Mais oui, les filles, vous ne connaissez pas Louis ?
Non.
C'est vrai ?
On est trop jeunes.
C'est une blague, dans le sens lui.
Non, lui, L-U-I, L-U-I. Vous, ah, ok, non. Je me sens vraiment vieille.
Mais non, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, on a une indication quand même de l'âge.
C'est ça. Bon, Rianne, j'arrête.
Voilà, donc bon, c'était ma petite découverte. Vous aussi, vous découvrez en même temps. Et du coup, voilà, pour revenir à ça, c'est à ce moment-là aussi que la répartition du budget de chaque foyer a changé. Donc, comme je disais, avant les 30 Glorieuses, donc le budget servait vraiment aux achats de première nécessité. Et après les 30 Glorieuses, ou pendant les 30 Glorieuses, le budget des foyers a commencé à être pour les biens de consommation durable. Donc, tout ce qui est électroménager, donc le réfrigérateur, machine à laver, la télé, la voiture. Et ensuite, une autre catégorie s'est ajoutée, les loisirs.
Donc, c'est là aussi qu'a commencé la société de loisirs qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, hein, même si on a eu la crise de 2008 qui nous a touchés fortement. Mais aujourd'hui, on est toujours une société de loisirs où les gens se disent vraiment je vais travailler pour ensuite me faire plaisir, partir en vacances, voyager, voilà. Oui, Lorraine.
Je voulais juste ajouter un élément supplémentaire parce qu'effectivement, si on considère que ça remonte à l'après Deuxième Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que l'Europe s'est construite aussi après la Seconde Guerre mondiale pour être un marché. Le plan Marshall de 1948, c'est pour relancer l'économie en Europe pour que du coup, on reconstruise la paix en consolidant aussi les marchés. Et tous ces éléments-là viennent aussi de cette volonté-là de créer un marché en Europe.
Oui, donc
ça s'ancre au-delà de avant d'arriver effectivement aux choses du quotidien. Il y a une réelle volonté politique de reconstruire pour construire un marché. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, carrément. Et pour finir sur ça, en fait, du coup, à l'époque, comme je vous disais, c'est là que les supermarchés se sont développés, les grandes surfaces. Et avec la publicité, le marketing, il y a eu une organisation des grandes surfaces pour pousser en fait, à l'achat. Notamment, les produits paris ont été réorganisés. À l'époque, on vendait beaucoup les produits à l'unité. Ça a commencé petit à petit à disparaître. Et c'est même là qu'est apparu le fameux format familial qu'on connaît aujourd'hui. Ou aussi les petites promos, un acheté, deux offerts, enfin ce genre de trucs. Et c'est aussi en même temps à cette époque qu'apparaissent les soldes qu'on connaît nous aujourd'hui, qui ont donc été encadrés par la loi et mis en avant par la publicité.
Merci Ryan. D'ailleurs, justement, en parlant de publicité, j'ai deux petites anecdotes cette année, l'année 2021. Alors, j'ai été prise, enfin, je ne sais pas pourquoi, sur Instagram, je vois une publicité sur des chaussures, une promo, super promo, une paire achetée, une paire offerte. Alors, ça faisait deux paires de chaussures à 20 euros. J'achète les deux paires de chaussures. Alors, je n'ai jamais reçu de mail de confirmation. Je n'ai jamais reçu de chaussures. La seule trace que j'ai, c'est le prélèvement sur ma carte bancaire. Et Et depuis ce jour, je ne vois plus la publicité sur mon Instagram. Je n'ai pas compris.
C'est pour ça que je n'ai pas confiance, moi, en ligne, clairement.
Alors, il m'est arrivé la même chose, les filles. Moi qui ne commande jamais sur Internet. J'ai commandé un tapis de course. À 19 euros. Ah, imaginez le truc. Sauf que dans la pub, c'était promis, tu peux le mettre sous ton canapé. Voilà. Oui. Donc, je me suis dit, je comprends le prix. Je n'ai jamais reçu le tapis de course, comme toi.
Oui.
La pub a disparu. Par contre, quelques mois après, j'ai été remboursée.
Ah.
Ouais. Donc, je pense qu'ils se disent que finalement, ce n'est pas assez cher. Et ils finissent par partir.
Moi, ce que je note, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir, c'est ça. Dans quelques mois, peut-être que tu auras ton argent.
Exactement.
Pas parce qu'en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que en fait, avec les publicités en ligne, il y a beaucoup de gens qui créent leur propre business et c'est pas forcément légal. Du coup, ils vont payer les réseaux sociaux, donc faire de la pub sur Instagram, sur Facebook, etc. Et en fait, vous allez penser que c'est des vraies sociétés, etc. Sauf que c'est des gens qui créent des sociétés fictives. Donc du coup, la pub, elle est super pro, etc. Ils arrivent même à mettre des faux avis. On dirait vraiment que c'est des vrais avis. Et en fait, ça ne m'étonne pas du tout ce qui vous est arrivé parce que là, en ce moment, c'est vraiment ce qui se passe. Et on tape beaucoup aussi sur, du coup, les influenceurs. Parce que les influenceurs, donc beaucoup de gens de télé-réalité, sont en train de promouvoir plein de sortes de produits. Donc, eux reçoivent le produit. Donc voilà, ça peut être, je ne sais plus, il y a eu des produits pour les bougies cheveux. Pour les cires d'oreilles, les bougies pour les cheveux, etc. Et en fait... là, c'est en train de faire un bad buzz parce que donc du coup, il y a des associations qui se liguent contre eux et sont en train de dénoncer tout ça parce que les gens sont complètement en colère parce que ils se font avoir derrière, ils n'ont pas les produits, etc. Et ça retombe du coup sur les influenceurs et etc. Donc voilà, faut faire vraiment très gaffe.
Oui. Merci. Adeline, petite pause musicale.
Oui. Alors moi, je continue à vous parler de Mariama et de Vier. Qui vont nous interpréter Kerayan.
Thank you.
Vous écoutez bien Urban Mood Talk sur Prune 92 FM.
En effet, vous êtes toujours sur Urban Mood Talk et nous entrons dans la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler ici des conséquences de la crise sanitaire sur les habitudes des consommateurs, voir un petit peu les changements que tout cela a apporté à notre société. Avec Souki.
Oui, donc du coup, c'est certain, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a modifié nos habitudes de consommation. D'après l'étude Zoom de l'Observatoire CTLM liée au coronavirus, menée en mars, avril et en juin dernier, en fait, on a vu que les Français exprimaient leur désir de changer leur comportement. Donc, on va plutôt être vers un consommer moins, acheter mieux et privilégier les produits locaux. Alors, au niveau des chiffres, ils étaient ainsi 58% donc à déclarer choisir une consommation plus responsable et 73% à s'interroger sur leur rythme de consommation, donc en remettant en cause certains besoins. Donc, ça va être des intentions qui vont être suivies d'actes concrets, puisqu'ils sont 47% à avoir augmenté leur achat de produits bio et 76% à vouloir plutôt privilégier les produits d'origine française. Donc, en fait, dans un environnement économique et sanitaire incertain, on va plutôt devenir un consomme-acteur et c'est plutôt devenu un choix de raison. On va avoir 25% des interrogés qui ont déclaré avoir eu des pertes importantes dans leurs revenus et 85% d'entre eux estiment également que les prix ont augmenté. Donc du coup, on va avoir des craintes liées au pouvoir d'achat qui vont conduire environ plus d'un Français sur deux à envisager de réduire leurs dépenses, notamment celles jugées non essentielles, donc c'est-à-dire plutôt les loisirs et les sorties. L'étude révèle néanmoins un paradoxe français entre le désir de freiner sa consommation et l'impérieux besoin de se faire plaisir ou de prendre soin de soi après les longues semaines de confinement. Et du coup, parmi les interrogés, on va avoir 81% qui vont déclarer, par exemple, faire moins souvent les courses. Et quand ils le font, ils vont plutôt privilégier donc les achats en ligne et l'utilisation des services type drive and click and collect, donc c'est-à-dire le retrait en magasin sans sortir, en sortant juste de leur voiture. Et dans les jours qui suivaient la levée des mesures de confinement, ils étaient plutôt 72% à envisager d'acheter de nouveaux vêtements et 70% souhaitaient se rendre le plus vite possible chez le coiffeur ou encore dans un centre d'esthétique et de soins. En troisième position, 68% des personnes interrogées planifiaient leur retour dans les bars et les restaurants, Mais bon, du coup, ce qu'il y a ce jour n'est toujours pas envisageable. Et puis, en dernier, on a vraiment un inversement de comportement par rapport à ce que disait Riane. Avec le Covid, les loisirs en général, les livres, les jeux, etc., et les activités culturelles, du coup, passent en dernier. On peut donc en déduire que les Français souhaitent consommer moins, mieux et plus local. On va avoir une grosse tendance au « made in France ». C'est d'ailleurs le grand gagnant du confinement. À titre d'exemple, pour leurs vacances, 2/3 des Français rêvent plutôt d'évasion locale, donc à portée d'autoroute ou de TGV dans l'Hexagone. On va consommer moins et mieux. Et c'est aussi également pour faire les choses soi-même, donc le fait maison. Et un autre enseignement qui ressort de cette étude, c'est aussi la nouvelle perception des Français sur les activités manuelles. Donc on va redécouvrir le jardinage, la cuisine, le bricolage. Et ils sont du coup 63% à vouloir consacrer plus de temps à leur bien-être. Donc voilà pour cette étude. Lorraine, je ne sais pas si tu as peut-être des remarques à ajouter pour compléter un peu cette étude et à souligner d'autres comportements ou faits.
Alors en termes d'autres comportements, je pourrais aussi signaler une tendance vers une plus grande considération de la solidarité. Mm-hmm. On a vu beaucoup de plateformes qui mettent en relation les commerces locaux et les producteurs locaux avec les consommateurs justement qui voudraient garder cette chaîne plutôt locale. Mm-hmm. Pour 62% des consommateurs, le soutien des commerçants ayant souffert et œuvré positivement pendant le confinement sera une priorité pour eux à l'avenir. C'est une étude de PCW France avec Kantar en avril 2020. Il est vrai qu'on dit que 74% des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer local après la crise. Par contre, ça reste largement déclaratif. Les changements concrets de comportement restent encore un petit peu à développer, si on veut. Mais les études montrent en tout cas qu'il y a cette volonté, une prise de conscience sur la volonté de rester un peu plus solidaire dans sa manière de consommer aussi.
D'accord.
Alors, moi... Grianne, tu as quelque chose à ajouter ?
Oui, en fait, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Lorraine. C'est que oui, il y a la volonté de changer, mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Parce que j'étais tombée sur une étude menée par Epidemic qui disait que, après le premier confinement, 47% des Français envisageaient de reprendre les mêmes habitudes qu'avant, et notamment ce qui allait faire que leur comportement changerait de façon durable. C'était plutôt le pouvoir d'achat qui allait motiver les gens. Parce que c'est vrai, il y a la volonté de changer les habitudes, de consommer local et tout ça. Mais en fait, les gens sont beaucoup concernés par le pouvoir d'achat parce que la crise en fait, a entraîné de la perte d'emploi ou de la suspension d'activité pour de nombreuses personnes. Et du coup, nombreux sont plutôt, surtout la classe moyenne, sont plutôt concernés par le prix. Ils ont dit, si le prix est abordable, pourquoi ne pas consommer local, bio, ce genre de choses. Mais si le prix n'est pas abordable, moi, je vais continuer à acheter ce que j'achetais avant. Donc, c'est vraiment aussi le pouvoir d'achat qui va jouer sur ça.
Lorraine ?
Il y a une étude de l'Obsoco qui disait que les Français, en tout cas les consommateurs, seraient prêts à payer en moyenne autour de 5% plus cher sur les produits de consommation quotidienne. Reste à savoir, effectivement, avec la Covid-19, la pandémie, beaucoup de Français ont perdu leur emploi, oui. Beaucoup ont été au chômage. Donc, effectivement, il y a une dimension de réalité et de volonté également à concilier.
Oui, mais du coup, vous, les filles, par rapport à tout ça, est-ce que ça a modifié votre façon de consommer ou c'est toujours pareil ? Adeline ?
Alors, moi, complètement, je pense, parce que clairement, je ne consomme plus.
Plus du tout. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux dire par consomme plus hein, parce que c'est relatif.
Non, c'est pas une histoire de solidarité ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, cette période fait... J'ai fait cette déduction il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Moi qui suis une folle dingue du shopping et tout ça, qui achète tout et n'importe quoi, machin. Mais en fait, ça fait des mois que je n'ai pas, pas acheté, une paire de chaussures.
Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est aussi dû au Covid, parce que tu sais, ils ferment les cabines d'essayage, etc. Tu n'as pas forcément envie de faire la queue pendant 10 minutes dehors.
Mais je pense que surtout moi, ne parle que de moi, c'est que comme on avait plus de vie sociale avant.
Ouais.
Bah du coup, je sais pas, on avait, enfin en tout cas moi j'avais plus envie de consommer,
de m'habiller,
voilà tout ouais. ça. Donc je pensais beaucoup à ça. Sauf que maintenant, comme c'est juste boulot et dodo, bah en fait on va dire que je porte ce que je mets pour aller bosser ouais. et puis. Oui.
T'as moins envie.
Voilà.
Sachant qu'il faut distinguer quand même, pardon, Tessa, effectivement, il faut distinguer la consommation en elle-même. Nous consommons tous.
Oui,
après, la consommation, on va dire, non essentielle ou superflue, si on veut, c'est une chose.
Là,
après,
c'est ce dont on parle.
Oui, en fait, justement, c'est ça l'idée. C'est parce qu'en fait, quand on parle là, dans ces études aussi de consommation, ce sont les choses du quotidien, l'essentiel, c'est-à-dire...
Les courses, par exemple.
Oui, manger, la tomate qu'on choisit, ouais. est-ce qu'on achète auprès du producteur local à côté. Donc, nous consommons tous, mais effectivement, il y a des zones d'achat, des domaines de consommation qui se sont réduits. Mais ce n'est pas pour autant que ça n'influence pas aussi la consommation en général, en disant même les consommations essentielles changent.
Oui. Mais justement, est-ce que vous voyez tout cela s'inscrire dans la durée ou vous pensez vraiment que ce sont des résolutions qui sont là parce qu'on parfois on n'a pas le choix hein, parce qu'avec les fermetures des magasins, les masques, la queue, etc. Bien sûr qu'on est un peu moins poussé à consommer. Est-ce que vous pensez que tout ça s'inscrit dans la durée, ça va s'inscrire dans la durée ou c'est juste temporaire?
Moi, je pense. Enfin, après, je parle pas pour tout le monde. Moi, je vais parler pour moi, par exemple. En fait, si le producteur local va pas venir à moi et que je ne vois pas sa pub, je vois pas de flyer, je vois rien, du coup, moi, ça n'a rien changé à mes habitudes de consommation. Donc, je parle pour le quotidien, pour mes courses alimentaires.
Oui.
Je fais comme d'habitude. Hein. J'ai même pas, moi, fait de click and collect, etc. Je vais dans mon magasin, je fais mes courses et je rentre chez moi. Point barre. Après, j'avais vu justement dans cette étude que 77% de personnes, après le confinement, on dit je vais faire ce que je faisais là pendant le confinement. Je vais garder ces habitudes d'essayer de consommer près de chez moi, etc. Voilà.
D'acheter plein de PQ et de garder à la maison.
Local.
Tant que c'est local, tout va bien. Alors,
Tessa, toi, ça a changé tes habitudes ou pas?
Alors, moi, je suis un petit peu comme Adeline parce que moi, je consomme un peu moins. Beaucoup moins. D'ailleurs, je suis un peu... en plus, comme il fait froid, donc je n'aime pas faire la queue, je n'aime pas me promener sans but particulier. Je déteste ne pas pouvoir essayer. Enfin, déjà qu'avec les queues avant, c'était compliqué. Alors maintenant, c'est encore plus difficile. Donc, je ne consomme plus. J'achète vraiment des produits alimentaires essentiellement et les vêtements. Voilà. Même pour les fêtes, je n'ai pas acheté de tenue, quoi.
La révolution.
Moi, pareil, j'ai été acheter un petit haut et je me suis dit, bon, je vais laisser l'étiquette, je le garde juste pour la soirée, je le rendrai. Bon, finalement, je ne l'ai pas rendu parce que je me suis dit que j'allais le remettre un jour. Mais par contre, ce que je voulais rajouter, c'était, en fait, là, on est sans langue de bois et du coup, en fait, on ne va pas se mentir, mais je pense que les gens ont beaucoup commandé aussi sur les plateformes via Amazon, Cdiscount, etc., durant ces périodes de confinement. Et enfin, pour moi, du coup, c'est l'inverse total de consommer local. Mais à côté de ça, bah, du coup, c'est moins cher. On est livré. Des fois, tu commandes le matin, tu es livré l'après-midi. Donc voilà, des fois, on est un petit peu égoïste et puis on va plutôt penser à nous plutôt que...
Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Souki, il y a effectivement ce bon-là dans l'achat en ligne. Mais ça ne bénéficie pas qu'à Amazon, c'est-à-dire que même les petits commerces à Nantes, on a eu des initiatives où il y a un jeune homme qui avait créé un site internet qui référençait beaucoup de commerces locaux, locaux. On va y arriver. Donc ce bond vers l'informatique, ou en tout cas la commande en ligne, ça a certainement beaucoup plus, c'est sûr même, a beaucoup plus bénéficié à Amazon.
Ouais.
Mais on a un petit peu quelques commerces qui ont tiré leur épingle du jeu. Ce n'est pas une majorité, il faut le dire quand même.
Merci Lorraine. Alors nous allons enchaîner avec une petite pause musicale.
Alors donc...
Urban Mode Talk, la culture urbaine autrement. C'est sur Prune 92 FM.
Trop vite, j'ai voulu aller trop vite. Donc, je vais vous présenter le troisième morceau de Mariama Evier. J'ai oublié de vous dire que Mariama Evier, vous pouviez les retrouver également sur leurs réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc, c'est Mariama Kouyaté, Ou sur Facebook, c'est Mariama Évier, la page Mariama Évier. Donc là, maintenant, je vous laisse écouter Na.
Vous êtes toujours sur Urban Mode Talk. Alors, nous tirons vers la fin de notre émission. Mais avant, nous allons vous parler de l'impact donc, de la COVID-19 sur les commerçants. Donc, Adeline, qui est directrice de magasin, est-ce que tu veux bien nous parler de ton expérience, de toutes ces opportunités salvatrices qui tombent un petit peu à l'eau, comme la journée du Black Friday ou encore les soldes décalés?
Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que on a un mot d'ordre, et je pense que je peux parler pour tous les commerçants, c'est l'adaptation. Donc, en ce moment, on essaie vraiment de s'adapter à chaque décision gouvernementale qui tombe, à chaque nouvelle mesure qui tombe. On essaye de garder toujours, vous savez, notre calendrier des charges par rapport au fait qu'ils peuvent se produire au niveau de la consommation dans l'année. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Pour ma part, je ne donnerai pas le nom de mon enseigne, mais je pense qu'on tire quand même un peu notre épingle du jeu. On tire quand même un peu notre épingle du jeu, mais c'est vrai que c'est très compliqué, et tu en parlais tout à l'heure, Tessa, de le fait que les gens doivent faire la queue, qu'ils doivent porter le masque, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Pour ne parler que de la Black Friday, vous savez que maintenant, c'est installé en France, et on essaye d'être, en tout cas, les commerçants essaient d'être prêts. Pour le jour J, mais ça demande une très très grosse logistique déjà à la base. Cette année, déjà ça a été reculé. Et après avoir été reculé, en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs n'étaient pas forcément présents, puisque aussi les consommateurs vont plus sur Internet pour acheter aussi.
Oui.
Les soldes arrivent, les soldes ont été décalés, comme vous le savez, pas d'une semaine, pas de deux, mais de trois semaines. Donc les soldes arrivent le 20 janvier et nous, on est prêts, on va dire, hein. On prépare nos soldes, on est prêts. Mais toujours cette incertitude. On ne sait pas si on sera ouvert ou pas, s'il y aura un couvre-feu. Voilà. Donc, on essaie toujours d'organiser nos équipes pour que les choses se passent le mieux possible. Par contre, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que c'est quelque chose qui est compliqué en ce moment. Je pense que vous êtes tout au courant. C'est que, mais en fait, c'est une période où on n'embauche plus. Donc, c'est les jeunes, tous les jeunes qui ont leur premier emploi ou qui profitent des soldes, voilà, des vacances scolaires, tout ça, pour pouvoir venir travailler. Ben, en fait, on ne peut plus leur proposer de vrais contrats. Alors, avant, c'était des CDD qu'on pouvait renouveler assez facilement. Maintenant, c'est des CDD, deux semaines. Enfin, c'est très, très, très compliqué. La période est compliquée et pour les commerçants et aussi toutes les personnes qui peuvent vivre autour.
Mais à qui le dis-tu ?
Est-ce que je peux me poser une question, Aline ? Toi, comment est-ce que tu réconcilies ce changement-là où tu es amenée à proposer ce genre de contrat précaire à des jeunes ? Tu as une fille qui a à peu près l'âge de demander un emploi maintenant. Comment est-ce que tu gères ça avec les impératifs de ton métier actuellement dans ce contexte particulier ?
Ben, écoute, je pense que comme tout le monde est au courant de la situation, les jeunes l'acceptent quand même assez bien. Ils l'acceptent bien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'après le premier confinement, tu sais, les gens avaient gardé leurs habitudes. Donc, on avait beaucoup de CV parce qu'ils savent que les vacances, les grandes vacances arrivant, qu'on allait embaucher. Donc, on avait beaucoup, 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 beaucoup de CV. Et même dans les CV qu'on avait, en fait, on avait de nouveaux profils. Et ça, c'était dû au Covid, de nouveaux profils qui venaient vers nous parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir trouver ailleurs ou peut-être dans leur domaine de formation. Là, aujourd'hui, si j'ai un CV par jour, c'est bien. Maintenant, en fait, ils ont carrément arrêté de venir déposer des CV.
D'accord.
Donc, c'est... Voilà. Après, je sais qu'il y a des enseignes qui embauchent encore, mais personne n'embauche en CDI actuellement. C'est pas possible. En tout cas, dans mon milieu professionnel. Donc, c'est compliqué. Moi, ça... Voilà, je pense à tous ces jeunes. Tu parlais de ma fille, ben là, elle cherche un petit job, là, ça va être les soldes et tout. Ben, tu vois, c'est pareil. Elle court partout pour avoir la meilleure opportunité parce que surtout, ils n'ont pas envie de tomber sur quelque chose ou en tout cas de faire quelque chose qui ne leur plairait pas.
Oui, c'est vrai qu'il y a une petite ombre d'incertitude qui nous plane un peu tous au-dessus de la tête. Et moi, j'aimerais juste poser une question. Comment vous sentez-vous par rapport à la notion de commerce non essentiel ? Parce que si on considère que, selon la définition de l'OMS, la santé, c'est un bien-être social, physique et moral, je trouve que tous les loisirs, toutes ces choses qu'on dit non essentielles, pour moi, elles sont quand même essentielles parce qu'elles participent aussi à la santé de tous, quoi. Comment quelle approche vous avez par rapport à ça ? Adeline ?
Alors, pour moi, c'est... Encore dire, c'est très compliqué parce que je pense qu'on est tous un peu dans le même état, quoi. C'est difficile d'aller bosser et de rentrer chez soi, tout simplement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trichent, mais je pense que les gens trichent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pas possible. Psychologiquement, c'est très compliqué.
Tricher, c'est faire des fêtes.
Ouais, ils font des choses. Voilà, ils font des choses entre eux, mais c'est très 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 compliqué. Moi, ça a été très très douloureux pour moi de ne pas fêter le 31 comme j'aimerais le fêter, parce que pour moi, c'est quoi qu'il arrive. Je veux partir en étant optimiste sur l'année à venir. Donc, voilà, ça a été très compliqué. Mais,
et moi, juste pour rajouter vite fait, moi, c'est au niveau des voyages. En fait, j'adore voyager, etc. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne peut pas trop se projeter. Donc voilà, on voit qu'il y a des gens qui font la fête à Dubaï, etc. Moi, Dubaï, ça ne m'intéresse pas du tout pour aller faire des vacances. Donc voilà, donc c'est ça qui mental, enfin ouais, au niveau de la santé mentale et tout, voyager, moi ça me fait du bien, etc. Je suis super curieuse et du coup aujourd'hui c'est en stand-by, je sais pas encore où je vais pouvoir partir, etc. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué.
Et en ce qui me concerne, en tout cas, les commerces non essentiels, enfin ou les activités non essentielles, je pense surtout aux troupes de spectacle qui en vivent, qui vivent de leur activité. En tout cas, je pense. Aussi aux artistes, à Prune, par exemple, on en ressent beaucoup, qui ne peuvent plus se produire en spectacle aussi. Donc, il y a toute une dimension où ces éléments-là impactent la vie économique, mais aussi la vie, le bien-être de chacun, le stress qui vient avec, en fait. Donc, c'est pas exclusivement mon propre plaisir, mais je pense énormément à eux.
D'accord. Merci, Lorraine.
Boss it.
Les mots s'envolent.
Les podcasts restent.
Rendons-leur leur liberté.
Avec Urban Mood Talk sur Prune 90 FM.
Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons quand même quelques petits, sur la rubrique actualité, quelques petites choses, quelques petites annonces. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du projet Lisons et Faisons Lire de l'association Asprobir, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un projet donc, qui consiste à collecter des fonds pour acheter des livres et donc les redistribuer à des associations pour qu'elles fassent en profiter leur communauté. Et nous faisons donc une campagne de sensibilisation pour la dénonciation des mariages précoces et forcés et des violences conjugales. Alors je vous en parlerai un peu plus le mois prochain parce que c'est une campagne qui ira jusqu'au 8 mars. Pardon, et le 8 mars, nous organiserons quelque chose avec l'association Asprobir. Souki, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ?
Oui, alors moi je vais vous parler d'un concours culinaire qui s'appelle le Best Chef Africa. Donc cette année, ce sera donc la première édition qui va se dérouler à Paris le 23 et le 24 janvier prochain. Il y a eu environ 400 candidatures de déposées. 13 chefs cuisiniers ont été retenus pour représenter la diversité de la cuisine africaine. Et pourquoi je vous parle de ça en fait ? Eh bien parce que le chef cuisinier M. Aboua du restaurant Timebox situé à Bouguenay, donc juste à côté de Nantes, fait partie des 13 candidats sélectionnés au niveau national et va donc représenter la gastronomie ivoirienne, vu qu'il est originaire de la Côte d'Ivoire. Donc du coup, n'hésitez pas à le soutenir. D'une, parce que pour avoir testé son restaurant, c'est vraiment de la cuisine africaine revisitée avec beaucoup de créativité et de finesse. Vraiment, c'est super bon. Voilà. Et ensuite, parce qu'il est important donc, de soutenir les restaurateurs en ces temps difficiles. Mmh. Et pour le moment, donc, Timebox est toujours fermé jusqu'à nouvel ordre. Par contre, le chef fait quand même des prestations aux traiteurs sur Nantes et ses environs. Et en attendant cette possible réouverture qu'on espère d'ici février, je vous invite à aller suivre son compte Instagram. Voilà, c'est Timebox, T-I-M-E-B-O-2-X. Et vous pourrez ainsi suivre un peu son aventure par rapport à ce fameux concours de Best Chef Africa. Voilà, je te donne la parole, Adeline.
Alors, moi, je vais vous parler d'un événement qui se passe en ligne. C'est ce soir, à 20h50, heure française, et 20h, heure sénégalaise, parce que je reste au Sénégal aujourd'hui. Ça s'appelle Yakar. C'est une émission qui est animée par Aissata et Boubacar, que vous devez connaître. Ils animent une émission également sur Prune. Et c'est une émission en fait, qui met en avant les artistes et les acteurs de la vie culturelle sénégalaise. Ce soir, ils vont accueillir Alioune Mbaye Nder. Alors, il faut savoir que tout se fait en téléconférence. Donc, vous allez pouvoir voir Boubacar et Aissata et vous allez pouvoir voir aussi Alioune. Et Alioune, c'est un chanteur sénégalais. Donc voilà. On va continuer avec Vieille Mariama. Ça va être le dernier morceau. Alors, je vais quand même... Je vais quand même vous épeler pour ceux qui ont envie de retrouver Vieille Mariama. Je vais quand même vous épeler le nom de leur réseau pour que vous puissiez les retrouver. Donc vous avez Mariama M-A-I-M-A-R-I-A-M-A et Vieille V-I-E-U-X, donc c'est comme vieux, sur Facebook. Et sur Instagram, c'est Mariama Kouyaté. Alors, toujours pareil, M-A-R-I-A-M-A, K-O-U-Y-A-T-E, le tiré du 8 est officiel. Et vous avez l'Instagram de Vie aussi, c'est Vie Aliou Sissoko. Donc c'est V-I-E-U-X-A-L-I-O-U-C-I-2-S-O-K-H-O.
Merci Adeline. Alors nous vous remercions de nous avoir écoutés. On vous souhaite un bon dimanche et merci de nous avoir écoutés. Au mois prochain.
animal.